Bonjour Noélie, de nous recevoir aujourd'hui au parc.
Bonjour.
Du coup, nous, c'est l'équipe Wizz Radio. On est venu un petit peu t'interroger du coup suite au micro-trottoir que le parc a commandé pour la révision de la charte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi, comment vous avez eu cette idée de faire un micro-trottoir ?
Alors, l'idée de faire un micro-trottoir vient du fait que donc, le parc révise sa charte, comme tu l'as dit. Déjà, une charte, c'est un projet de territoire, c'est un contrat qui est signé par un ensemble de partenaires, des communes, des communautés de communes, l'État, la région. Et donc dans ce contrat, on donne les grandes lignes du projet futur et on réfléchit donc à l'horizon 2038, c'est un vaste horizon. Et cette révision de charte doit se faire en concertation avec les partenaires du territoire, donc partenaires professionnels, mais aussi avec les habitants. Et les élus du parc du Vercors ont souhaité vraiment travailler assez fortement dans le sens de la concertation. C'est pourquoi on a ouvert les choses de manière très large envers les habitants. Et l'idée de lancer ce projet de micro-trottoir à l'échelle du territoire, c'est d'une part pour faire parler de la révision de la charte, mais aussi et surtout pour interroger les habitants sur ce qu'ils souhaitent pour le parc de demain. C'est aussi, d'une certaine manière, connaître un petit peu la manière dont ils voient le parc aujourd'hui, dont ils le voient ou dont ils ne le voient pas d'ailleurs.
Et donc du coup, vous avez pu écouter ces micro-trottoirs. Nous, on a pu en réaliser un, mais on n'est pas la seule radio à avoir fait ce travail-là. Qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'il va y avoir une suite ?
Alors effectivement, déjà, Wizz Radio n'est pas la seule radio. C'est celle qui représente le territoire des Quatre Montagnes. On a également travaillé avec Radio Royan-Vercors, Radio Dragon qui est sur le Trièves, Radio Diwa qui est dans le Diwa, Air Diwa. Et Radio Saint-Ferréol qui couvre une partie de la Gervanne et Cray qui est une ville-porte. Alors les retours de ces micro-trottoirs sont très intéressants. C'est très 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 varié. En fait, il y a certaines personnes qui ont une bonne connaissance des actions du parc, des personnes qui travaillent déjà avec le parc, donc qui savent un petit peu quelles sont les actions en matière agricole, touristique ou lié à la biodiversité. Et on a quand même aussi beaucoup d'habitants qui ne connaissent pas forcément ou qui n'entendent pas forcément parler du parc. Donc nous, ce que ça nous fait dire, c'est que y a sans doute un déficit d'intérêt ou de communication. Alors c'est pas quelque chose de grave, mais ça nous donne en tout cas une marge de progrès pour être encore plus proche des habitants. Et ça nous donne aussi toute latitude pour se dire oui, c'est intéressant de donner la parole aux habitants pour construire un projet de territoire pour demain.
Alors, effectivement, nous, sur le micro-trottoir, on a pu constater que quand même quelques habitants avaient une connaissance très partielle, voire presque pas du tout du parc et de ses missions. Donc profitons aujourd'hui de notre rencontre pour essayer de leur en dire davantage. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un parc ?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc ? Vaste question. Peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est repartir de la création des parcs. Donc, l'idée de création des parcs est née sous le gouvernement du général de Gaulle. À la fin des années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de territoires ruraux en France qui avaient parfois certaines difficultés au niveau du développement économique et que pour autant, ces territoires étaient extrêmement riches d'un patrimoine naturel et culturel. Et pour accompagner ces territoires, pour préserver ces richesses, tout en dynamisant une certaine économie qui est liée à l'agriculture, au tourisme, on a décidé de créer ces fameux parcs naturels régionaux. Donc aujourd'hui, fin 2019, il existe 54 parcs naturels régionaux. Celui du Vercors aura 50 ans l'année prochaine. Et du coup, les parcs naturels régionaux sont de grands espaces ruraux habités. Voilà, déjà ça, c'est la définition commune de grands espaces ruraux habités qui recèlent des richesses au niveau de la culture, culture de montagne ou pas d'ailleurs, un patrimoine humain et culturel riche, et qui recèlent aussi de grandes richesses liées à la biodiversité et au paysage. Donc l'objectif de la création de ces parcs, c'était bien de pouvoir préserver ces richesses-là tout en accompagnant un certain développement. Donc une fois qu'on a dit ça, on a posé les grandes bases, mais peut-être on peut s'interroger sur ce qui fait la spécificité du territoire du Vercors. Bah, c'est effectivement ça, je pense que tous les auditeurs s'accorderont à être d'accord sur ce postulat, c'est que le massif du Vercors, le territoire du parc naturel régional du Vercors, est un territoire super riche au niveau de ses paysages. Il est composé, on a l'habitude de dire, d'une mosaïque de paysages qu'il convient de préserver. Pour plein de raisons, parce que ce sont des milieux qui sont habités par une faune et une flore particulières, mais parce que ce sont aussi des paysages et des milieux qui attirent des habitants pour la qualité de vie, mais qui attirent aussi des visiteurs. Donc là, on pensera plutôt à la question touristique. Et ce qui est très intéressant et important de dire, c'est que la qualité de ces paysages, elle existe parce que ces paysages, ils ont été façonnés par l'homme depuis très 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 longtemps, et façonné par l'homme, en particulier par le travail agricole, l'agriculture, c'est un volet économique et humain du territoire qui est vraiment très très important. Chacun a à côté de chez soi une ferme, une exploitation agricole, et c'est vraiment ces paysages-là sont vraiment basés sur ce travail humain réalisé depuis des années et des années. Et donc, toutes ces choses-là, elles s'articulent entre elles. Et le propre d'un parc naturel régional, c'est d'essayer de préserver ces équilibres. C'est-à-dire que d'un côté, on a des enjeux de préservation des espèces, des milieux. Et de l'autre côté, on a l'enjeu de la préservation, entre guillemets, mais même pas, des activités humaines qui font vivre les gens qui habitent au pays. Donc, on est toujours sur un fil assez tendu, puisque parfois y a certains projets qui vont aller plus du côté économique. En fait, l'idée d'un parc, vraiment, c'est de maintenir cet équilibre qui est toujours, comme je le disais, sur le fil.
Du coup, par rapport à tes explications, on pourrait dire qu'en tant qu'habitant, on peut ne pas voir en fait ce qui est fait. Mais justement, pour illustrer ce que vous faites, les salariés, est-ce qu'on peut peut-être partir de quelques exemples ? Peu importe sur la thématique, mais comme c'est préserver ce qui existe, c'est vrai que ça pourrait presque être invisible à l'œil, c'est ça que je veux dire en fait, pas que vous ne faites rien du tout, mais c'est au contraire comment on peut expliquer aux habitants sur une des thématiques comment vous travaillez avec les habitants ou avec d'autres professionnels.
Alors on peut prendre effectivement des exemples en lien avec les grandes thématiques que travaille le parc, et justement merci de ta question, ça permet aussi de les rappeler. Le parc travaille sur les grandes thématiques qu'on a précédemment citées, l'agriculture, le tourisme, l'aménagement du territoire qui concerne tout ce qui est lien avec les paysages, mais aussi énergie et mobilité, la biodiversité, qui est aussi une grande mission des parcs, ainsi que l'éducation et la culture. Alors, à titre d'exemple, on peut parler des questions liées aux enjeux touristiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les paysages et la qualité de vie et de ces paysages sur le Vercors fait que ce territoire attire un grand nombre de personnes pour pratiquer des activités de pleine nature. Alors, ça peut être parapente, escalade, trail, que sais-je encore. Et ces activités peuvent avoir un impact sur les fameuses richesses naturelles dont on parlait tout à l'heure, la biodiversité. Donc, une des actions concrètes que mène le parc, c'est de travailler en lien avec les pratiquants de sport de nature et les naturalistes pour essayer, donc c'est de la concertation, c'est mettre un peu tous les acteurs autour de la table pour essayer de faire un diagnostic partagé, c'est-à-dire que ce sport-là, cette pratique-là, qu'est-ce qu'elle vient gratter, entre guillemets, en matière de biodiversité, et bien comment est-ce qu'on peut ensemble arranger ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut adapter nos pratiques sportives en fonction, par exemple, des saisons, période de nidification de certains oiseaux, comment est-ce qu'on peut adapter ces pratiques en lien avec la richesse naturelle qui préexiste ici. voilà, sur les questions agricoles, par exemple, ça va être la mise en valeur des produits du territoire. Alors, l'ensemble des parcs naturels régionaux en France ont une marque, entre guillemets, qui s'appelle « Valeur parc naturel régional », qui correspond à un cahier des charges lié à la qualité. Et du coup, l'action du parc va être d'accompagner les producteurs, les agriculteurs, pour la valorisation de leurs produits agricoles. Voilà, à titre d'exemple, on le sait, sur le Vercors, on a un certain nombre d'AOP, je pense notamment au bleu du Vercors, mais on a aussi un certain nombre de produits qui sont reconnus. L'action du parc, elle va aller dans ce sens-là. Sur les questions liées, par exemple, à la biodiversité, on va pouvoir... Alors, il y a tout un tas de mesures de protection qui existent, les espaces naturels sensibles, les sites Natura 2000. Donc là, on va être vraiment de manière technique dans la préservation des milieux et des espèces, mais on va pouvoir aussi avoir une action sur la réintroduction de certaines espèces disparues, comme le gypaète, par exemple, dont on a parlé récemment. Voilà, ça peut être ce type d'action. Et puis peut-être sur le volet déplacement et énergie, il y a pas mal d'actions qui sont mises en œuvre pour essayer de lâcher un peu sa voiture individuelle et de penser autrement ses déplacements en les mutualisant, en impulsant des dynamiques d'autostop, de covoiturage, etc. Et puis évidemment, il y a toute la partie culture et éducation qui vient renforcer en fait les actions dans chacune des thématiques. Et qui vient intervenir auprès des scolaires, mais aussi auprès des habitants, pour mieux connaître son territoire, pour accompagner des démarches liées au changement de comportement. Voilà.
Peut-être pour continuer d'informer les habitants, est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu plus le fonctionnement d'un parc ? Quel statut il a ? Comment il se positionne par rapport à une mairie, une interco ?
Alors, un parc naturel régional, c'est un syndicat mixte, donc c'est géré par un syndicat mixte qui est composé d'un peu plus d'une centaine d'élus. On a vraiment un organe de gouvernance, comme on dit, qui se réunit de manière assez régulière et qui est composé par un peu plus d'une centaine d'élus. Donc ce sont les élus de toutes les communes qui font partie du périmètre du parc. Aujourd'hui, il y en a 83. Ce sont aussi les élus des communautés de communes. Chaque communauté de communes élit un délégué au parc, c'est-à-dire ce sera le représentant de la communauté de communes dans cet organe de gouvernance. On a aussi les élus des conseils départementaux, donc la Drôme et l'Isère pour le cas du Vercors, et on a également des élus de la région. Donc cet ensemble, cet organe de gouvernance s'appelle un comité syndical, et il se réunit plusieurs fois par an pour prendre les grandes décisions, et bien évidemment en lien avec la charte qui est le projet de territoire. Et ensuite on a un organe un peu plus petit qui est le bureau du parc. Donc, qui est composé du président, des vice-présidents, de certains élus qui ont des prérogatives. Par exemple, on a un vice-président à la culture et à l'éducation, un vice-président à la biodiversité, etc., etc. Et donc, ce bureau se réunit en moyenne une fois par mois pour entériner les décisions, notamment en lien avec les actions que le parc porte. Donc ça, c'est vraiment l'organe de gouvernance. Et puis après... Dans les bureaux, ou pas que d'ailleurs, il y a une équipe de techniciens qui, elle, est chargée de mettre en œuvre la politique décidée par les élus, qui elle-même est contenue dans la charte.
Du coup, justement, à moins que tu aies autre chose à ajouter sur le parc et son fonctionnement, je voudrais bien qu'on revienne sur la charte. Pareil, toujours pour que les habitants aient l'information. Jusqu'à quand ce travail de révision va avoir lieu ? Quand est-ce qu'elle va être rédigée ? Est-ce que tu peux nous redonner un peu les étapes ?
Alors, les étapes, donc c'est un travail de longue haleine. Je vous disais tout à l'heure, la future charte va nous conduire de 2023 jusqu'à 2038. Donc, c'est un projet de territoire sur le temps long, ce qui est assez rare pour des institutions. Les communautés de communes ont aussi des projets de territoire, mais en général, ils ne durent pas aussi longtemps. Donc, c'est toute la difficulté et l'intérêt de travailler à cette échelle de temps long. Et comme on travaille à une échelle de temps long, le travail de révision de la charte se fait aussi à une échelle de temps très long. En fait, il y a plein de choses qui sont invisibles pour les habitants, par lesquelles on doit commencer. En fait, on commence par établir une évaluation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans n'importe quel projet, c'est assez compliqué de se lancer dans un nouveau projet sans avoir fait le bilan du précédent projet. Donc il y a toute une étape d'évaluation où on regarde quelles actions étaient programmées, quels enjeux avaient été fléchés, est-ce que les actions ont permis de répondre à ces enjeux. Donc on va aller vraiment dans le détail assez fin de toutes les actions qui ont été mises en œuvre. Et puis on va bien sûr aussi aller mener des petites enquêtes, des interviews avec des partenaires pour avoir leurs sentiments sur l'évaluation de la précédente charte. Ensuite, il y a un diagnostic, c'est-à-dire que là, on va travailler avec des prestataires hein, qui viennent nous aider pour prendre une photographie du territoire à l'instant T. Donc ce travail, il a été réalisé en 2018. Donc aujourd'hui, on a une photographie du territoire du massif du Vercors à l'instant T qui va venir regarder des choses liées à l'économie, donc au tourisme, à l'agriculture, liées à la dynamique de population, liées aux déplacements, liées à l'emploi, enfin voilà, des choses assez larges. Et donc une fois qu'on a cette évaluation et ce diagnostic, qu'on les a intégrés, on peut enfin se lancer dans « bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant demain ?» Donc ce travail-là, ouvert aux partenaires évidemment et aux habitants, il a débuté à la fin de l'année 2018. Et il y a eu un certain nombre d'ateliers en mode un petit peu participatif pour venir décortiquer quels seront les enjeux pour ce territoire-là à l'horizon 2038. Donc on vient travailler les thématiques qu'on aborde de manière assez régulière et depuis tout à l'heure à l'antenne, l'agriculture, le tourisme, l'éducation, les mobilités, les questions liées à l'alimentation, à la santé, etc., etc. Et donc il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont eu lieu dans différentes communes du parc et les derniers ateliers, aussi ouverts à un public aussi large, viennent de se terminer. Et donc, c'était tout début décembre 2019. Et donc, grâce à ce travail vraiment collectif, ça va un petit peu passer au crible d'une analyse sur l'éducation et la culture. Les partenaires et les habitants pensent qu'il faudrait faire beaucoup vers les lycées, par exemple, ou proposer plus de temps de rencontres sous forme de spectacles de rue. Voilà, là c'est plein d'exemples d'actions hein, qui n'ont pas forcément de sens prises comme ça, désolidarisées du reste, mais en tout cas, toutes les propositions vont être réorganisées et à partir de 2020, une pré-charte, un sommaire de charte, peut-être on peut dire ainsi, va pouvoir commencer à être rédigé. Et tout ça, bien évidemment, en lien avec les élus du territoire, puisque ce sont eux qui mènent la danse, finalement, de cette future politique.
Et du coup, si les habitants qui nous écoutent ont envie encore de suivre ou voire de donner des idées, c'est encore possible, ça le sera plus tard?
Alors, il y aura d'autres temps ouverts aux habitants qui viendront plus rendre tout le travail qui aura été produit. Après, les choses, elles sont encore pas du tout inscrites dans le marbre. Et la porte du parc et les numéros de téléphone des techniciens sont largement ouverts à la discussion. Mais c'est vrai que le gros de la concertation, de la consultation, il a eu lieu sur l'année 2019. Et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui ont pu rencontrer ou les élus ou les techniciens du parc sur différents événements qui ont eu lieu, parce que là on a parlé évidemment des ateliers participatifs où on est tous autour d'une table à plancher, mais il y a aussi plein de temps qui ont été programmés, proposés sur des événements qui existent déjà. Alors je pense par exemple sur les quatre montagnes au Festival de la Jeunesse qui a eu lieu au mois de mai, il y a eu le Festival d'humour et de création sur lequel on était aussi présent, le Vercors Music Festival sur lequel on était présent pour venir interroger les festivaliers, les habitants sur le parc de demain. Peut-être que ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que pour se tenir informé au maximum de cette révision de charte, on a une page sur le site internet du Parc du Vercors qui est vraiment spécifiquement axée sur la révision de la charte. Et puis, pour se tenir aussi informé, je peux inviter les auditeurs le plus largement possible à s'inscrire aux lettres d'information qui sont envoyées, par exemple, à peu près une fois par mois pour être tenu informé des différentes actions et surtout y participer.
Eh bien, merci pour toutes ces informations très éclairantes.
Merci.